France Culture. François Calame, bonjour.
Bonjour Caroline Bruy.
Hier, dans le troisième épisode, vous nous avez parlé de votre souci de constituer ce qu'on pourrait appeler une Europe par le bois ou bien une union internationale des charpentiers avec votre collectif Charpentiers sans frontières. Vous nous avez parlé des spécificités, des savoir-faire culturels, de l'échange des savoirs. Pour ce quatrième temps, avant de parler de l'art français, du trait de charpente que vous avez fait reconnaître au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en 2009, quelques mots peut-être quand même de vos réalisations. Pas toutes, mais des réalisations avec Charpentiers sans frontières. Par exemple, on peut parler pour commencer des réalisations à caractère patrimonial. Vous travaillez beaucoup sur les monuments historiques, pas que. Mais on pourrait en citer un. En 2021, vous avez restauré la charpente de la chapelle Saint-Hubert du château d'Amboise, datant du XVIe siècle, qui abrite le tombeau de Léonard de Vinci. Il y avait pour ça une trentaine de bénévoles venus de 8 pays, des maîtres et des jeunes apprentis. Voilà, ça c'est une des réalisations possibles qu'on peut évoquer.
Le travail à Amboise, évidemment, nous a beaucoup marqué symboliquement. Le lieu est tellement fort. On a pu intervenir en abattant nous-mêmes les arbres à proximité dans la forêt toute proche du château d'Amboise et nous avons reconstitué une partie du comble de la chapelle qui devait être reconstituée. C'était une charpente qui avait été remaniée, elle n'était pas de l'époque de Léonard, mais c'était une charpente du début du 19e siècle qui était en mauvais état et que nous avons pu réaliser en facsimilé. Sur la terre ferme, à proximité même du chantier, en utilisant les techniques qui étaient celles des techniques d'origine. Il faut avouer que, d'une part, sur un site comme le château d'Amboise, évidemment, on est pris à la gorge, l'émotion nous gagne, parce que c'est un lieu tellement riche d'évocations, qui est déjà magnifique sur le plan de sa topographie. Et puis, le fait de travailler avec les bois mêmes qui sont issus du terroir, c'est quelque chose qui forcément motive énormément nos amis, nos invités, nos participants, nos charpentiers et charpentières sans frontières qui viennent du monde entier. Ça les motive parce que c'est évidemment quelque chose d'exceptionnel. Et si on leur annonçait qu'on allait tailler à la tronçonneuse des morceaux de bois issus de la forêt sibérienne, la motivation serait moins forte. Donc dans le côté patrimonial, il y a bien sûr, forcément, on ne va pas le nier, un attrait pour ce qui est ancien, pour ce qui nous fascine par... le respect qu'on peut avoir sur le travail fait par des personnes qui nous ont précédés, mais il y a aussi une manière contemporaine de s'approprier, de se réapproprier des gestes qui sont enfouis intimement dans la personnalité des ouvrières et des ouvriers, redécouvrir ce qu'on est capable de faire avec ses mains et qu'on nous a pas nécessairement enseigné dans la société contemporaine. Ça, c'est une motivation et c'est lié très souvent donc aux travaux qu'on peut faire sur du patrimoine.
Alors, il y a les interventions à caractère patrimonial, mais vous avez aussi parfois réalisé du travail humanitaire. Je pense notamment en France, là encore, à la jungle de Calais, du nom de ce campement, qui était un campement informel de migrants à côté du port de Calais et qui a existé entre le début des années 2000 et 2016. Là, les Charpentiers sans frontières sont intervenus.
On est intervenu d'une manière... Le mot spontané n'est pas approprié, mais en tout cas, ça s'est décidé extrêmement rapidement à partir d'un signal que nous a donné un de nos amis qui était sur place à la jungle. Je me rappelle de son coup de téléphone qui m'a beaucoup frappé, qui m'a dit « Écoute, je suis à la jungle, je vois des choses incroyables qui se passent. Je suis au milieu de gens qui méritent notre attention. » Et à ce moment-là, très spontanément et très généreusement tout un groupe de charpentiers d'horizons très divers, principalement français, parce que ça se passait dans une échelle de temps très courte. On conçut et réalisé un ouvrage architecturé complexe qu'on a appelé, son concepteur Mourad Manès a appelé une charpente réciproque. Le terme et la réalité sont extrêmement intéressants parce que c'est une tour, mais dans laquelle l'ensemble des pièces de chevronnage rayonnent et se maintiennent au sommet par un assemblage très spécifique qui est à la fois très beau esthétiquement et puis qui est un symbole évidemment très fort. Et donc en quelques jours, quelques semaines, venus d'un peu partout, des éléments ont été préfabriqués pour concevoir ce qui allait devenir un centre d'accueil juridique, de conseil juridique qui était réservé aux migrants. Nous avons construit cette tour qui a fonctionné pendant plusieurs mois et qui a accueilli à peu près 300 consultations données bénévolement par des juristes qui ont pris au cas par cas des demandes de dialogue, de conseil de la part de migrants. Et le bâtiment a ensuite été incendié dans des conditions qui ne me sont pas connues.
Dans le même ordre d'idée, je crois qu'il est question que vous interveniez à Mayotte.
Nous avons en ce moment à l'étude un projet d'intervention à Mayotte après le fameux cyclone ravageur.
On est en mars 2025.
Oui. Une intervention à Mayotte qu'on aimerait beaucoup tenter avec un groupe peut-être d'une vingtaine ou d'une trentaine. Et nous cherchons même, au moment où nous nous parlons là, des contacts qui nous permettent d'asseoir un projet qui soit utile. Et une piste, mais qui est toute fraîche et qui reste évidemment encore à étayer, ce serait la possibilité de reconstruire un de ces abris collectifs qui est, je crois, la caractéristique de la plupart des villages à Mayotte, qui sont des structures en bois relativement légères, mais qui abritent des réunions communautaires et qui est un peu la caractéristique de l'architecture de Polynésie. Il semblerait que ça soit dans nos possibilités, d'autant qu'une grande partie du peuplement forestier de l'île a été complètement déracinée et qu'on m'a signalé que beaucoup de ces arbres se trouvaient à l'abandon, en bord de route. Or, travailler avec la ressource locale est typiquement dans nos cordes, ce qui nous tenterait le plus.
Alors, on a parlé là, François Calame, de réalisation architecturale de bâtiments que vous avez construit, mené avec Charpentiers sans frontières. Je voudrais qu'on zoome un petit peu dans cet épisode sur certaines des caractéristiques de ce que on appelle l'art français du trait de charpente, puisque cet art français du trait de charpente, vous avez contribué à le faire reconnaître au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en 2009, donc ça n'est pas rien, et que je crois pouvoir dire que pas grand monde ne sait de quoi il s'agit. Et pourtant, c'est quand même très important. C'est un art de la coupe, un art de l'assemblage. C'est quoi déjà ce trait particulier ?
C'est sûr que c'est un terme qui, lorsqu'on le prononce à haute voix dans la rue, ne provoque pas nécessairement l'enthousiasme de la part des riverains. En fait, personne ne sait ce que c'est. Et à la fois, ça a été une chance pour nous de pouvoir le proposer, parce que, au fond, proposer à l'UNESCO la reconnaissance d'une discipline de cette sorte, ça peut parfois entraîner des conflits d'intérêts, des enjeux à caractère économique ou prestigieux. On peut froisser des gens, on peut en oublier d'autres. Lorsqu'on parle de trait de charpente, comme personne ne sait ce que c'est, on arrive en terre vierge. Et ça nous a permis, en 2009, lorsque nous avons monté le dossier, de ne rencontrer que des visages plutôt bienveillants et plutôt à l'affût de réponses à des questions simples. Qu'est-ce que c'est que l'art du trait de charpente ? Alors, et pourquoi est-ce que c'est français ? On sait que dans le monde entier, tout le monde est capable de construire des superbes architectures. Ce n'est pas l'apanage de notre société, chacun en partage des portions complémentaires, mais on n'a pas toujours la même façon de procéder, la chaîne opératoire n'est pas la même et on n'a pas les mêmes modes de représentation de ce qu'est l'architecture, que ce soit dans la Terre de Feu, que ce soit au Groenland ou que ce soit en Scandinavie. En France, on est censé être des gens extrêmement cérébraux. En tout cas, ça semble se vérifier sur cette, à propos de cette discipline et notamment cette manière de concevoir sous forme graphique le projet architecturé. Au néolithique, on pouvait monter des maisons sans en avoir fait de tracé. On dressait les poteaux, on les enfonçait en terre. Il y avait des formes d'évaluation. Il faut nécessairement arriver à évaluer les dimensions nécessaires, ne serait-ce que pour approvisionner le chantier. Donc il faut un minimum d'éléments quantitatifs. Il y a une projection cérébrale. Ça n'est pas qu'un art spontané qui se fait dans la forêt. Ce que l'on constate, c'est que la volonté de maîtriser le projet architectural par un tracé en deux dimensions sur un papier est quelque chose qui est vraiment une caractéristique de l'art français de construire. Pas que français, les Allemands ont également développé cette discipline. Il y a un art très consommé en Allemagne également qui apparaît pratiquement à la même époque. En l'occurrence, tout ça se passe à la fin du XIIe siècle.
À la charnière de l'architecture romane et de l'architecture gothique.
Voilà, vous avez mis le doigt sur le détail important.
Ça sera aussi important pour l'émission qui suit sur la restauration de Notre-Dame. Il faut bien garder ça en tête.
L'architecture romane est une architecture essentiellement en 2D. Et à partir du moment où apparaît l'architecture gothique, eh bien, y a un tournant extraordinaire qui se remarque par le besoin qui se fait sentir, mais aussi la capacité de résoudre ces questions par des tracés de géométrie complexe. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît véritablement le trait de charpente, donc comme étant, encore une fois, une spécialité véritablement française, mais aussi allemande.
Un peu japonaise, non ?
Et les Japonais, voilà, c'est le dernier point du trio. Les Japonais ont également dominé très tôt les pratiques de géométrie complexe, mais avec d'autres procédés. Mais le jeu de l'UNESCO avec ses protections ou ses inscriptions au titre du patrimoine culturel immatériel, la règle du jeu à respecter, c'était de dire, voilà, nous sommes un groupe, nous sommes une nation, et nous proposons tel ou tel élément que nous jugeons de qualité suffisante pour pouvoir être reconnu au niveau international. Donc ça se place nécessairement sous une bannière nationale, voire internationale, mais les projets sont plus difficiles à monter. Et donc en l'occurrence, c'est sous la bannière française que nous avons monté ce projet, bien entendu, dans notre esprit, sans la moindre souci d'exclusivité ou de patriotisme mal placé.
Alors cette manière de concevoir des solutions pour résoudre des problèmes de géométrie complexe, de géométrie dans l'espace, vous disiez, François Calame, qu'elle est apparue au XIIe siècle, à la fin du XIIe siècle, et pourtant il a fallu attendre la fin du XVIIIe siècle, 1766-1767, pour que soit paru, soit publié le premier traité d'art du trait de charpente, signé d'un maître charpentier qui a joué un rôle très important, j'espère que vous allez nous en parler un peu, Nicolas Fourneau. D'ailleurs, vous avez à côté de vous un livre extraordinaire, je dis extraordinaire parce que c'est rare d'avoir des livres comme ça, normalement c'est dans les bibliothèques, les archives qu'on garde ça, très très gros livre, très vieux livre, qui n'est pas la toute première édition, qui est un tout petit peu plus vieille, enfin, ou jeune, ça dépend d'où on se place, qui est cet art du traité de Nicolas Fourneau.
Oui, alors je compléterai quand même, parce que vous êtes formidablement renseigné, je compléterai quand même par la mention d'un autre traité qui est antérieur, qui est de 1627, qui est l'ouvrage de Mathurin-Jousse. Le petit bémol, c'est que Mathurin-Jousse, lui, était un architecte. C'était l'architecte de la ville de La Flèche. Et en 1627, il publie ce que l'on pourrait qualifier réellement de premier ouvrage dans lequel le trait de charpente figure en tant que tel, de manière simplifiée. La mention de fourneau, mais vous avez absolument raison d'y insister, c'est que c'est le premier ouvrage rédigé par un charpentier lui-même. Et ça, c'est un geste qui est extrêmement fort, symboliquement, pédagogiquement, intellectuellement, parce que ça se passe bien sûr dans l'esprit de la grande encyclopédie. Pour moi, Nicolas Fourneau est un charpentier, c'est un homme aux mains calleuses, mais c'est un encyclopédiste. Et ça, ça se note parce que les encyclopédistes, Diderot et d'Alembert et leurs confrères, étaient des collets blancs, c'était des gens aux mains fines qui ne pratiquaient pas eux-mêmes les arts mécaniques qu'ils décrivaient dans leur encyclopédie. Fourneau, il y a une pauvre petite gravure qui montre cet homme tout rabougri, mal habillé, et qui est beaucoup plus à l'aise à pousser un rabot et à affûter une bise aiguë que fréquenter des salons en perruque poudrée. Et le geste de Fourneau est d'autant plus impressionnant qu'il a fait l'effort, donc le premier, de concevoir un ouvrage maîtrisé intellectuellement et théorisé graphiquement qu'il mettait ensuite à la disposition de ses disciples. Nicolas Fourneau est un autodidacte qui raconte qu'il a appris lui-même seul à lire et à écrire et qui a petit à petit réussi à accéder au grade de maître charpentier, ce qui était dans le contexte de l'Ancien Régime une étape socialement et intellectuellement difficile à maîtriser. Ça signifie également un investissement financier, donc on peut imaginer que Fourneau a pu être aidé, épaulé par des mécènes, mais ça, c'est un personnage un peu mystérieux. Mais surtout, je trouve que Fourneau crève l'écran par sa personnalité et par sa passion d'un métier qu'il voulait à tout prix transmettre à la jeunesse ou à des confrères mal formés. Et je dirais comme exemple, mis à part la publication de ce livre qui a été publié pour la première fois à Rouen, donc
où on est,
où nous sommes, et la petite rue de l'Écureuil où a été publié ce livre existe toujours. Je ne sais pas dans quel immeuble ces pages de l'édition originale ont pu être imprimées, mais j'avoue que j'ai toujours une émotion quand je passe dans cette petite rue. Et puis on voit aussi en ville plusieurs immeubles dans lesquels Nicolas Fourneau a mis sa patte. Et en particulier, il a conçu un immeuble qui est très peu reconnu publiquement, mais qui a une force à mes yeux très grande. C'est l'hôtel du président de Bailleul, donc qui était un notable rouennais, et dans lequel Fourneau, vers 1765, a conçu les premières lucarnes qu'on appelle des guitardes. Et ça, c'est extraordinaire. Ce sont de véritables chefs-d'œuvre, au sens compagnonique, au sens courant du terme, mais aussi au sens compagnonique, c'est-à-dire la signature de l'excellence de la personne qui l'a conçu, qui a maîtrisé les tracés et a maîtrisé la réalisation. Et les lucarnes guitardes, elles crèvent les yeux, c'est une pièce maîtresse que l'on aperçoit et qui permet immédiatement aux yeux du riverain, du passant, de dire « Ah, cet ouvrage a été fait par quelqu'un qui connaissait vraiment le métier. »
Alors, dans ce livre que vous avez ouvert à côté de vous, le fameux traité d'art du trait de charpenterie, il y a une page ouverte sur laquelle on voit le dessin d'une lucarne guitarde. Je serais bien incapable de le décrire. La lucarne est cintrée en 3D.
Un des grands apports de Fourneau, c'est d'avoir, si ce n'est inventé lui-même, en tout cas transcrit et transmis aux générations à venir, cette façon de résoudre ce problème complexe qu'est la réalisation d'un ouvrage cintré en trois dimensions. Et surtout de maîtriser par le tracé et absolument pas par tâtonnement, N'importe qui peut assez habilement réussir à faire un ouvrage comme ça, mais en tâtonnant. Je donne un petit trait de scie par ici, ah ben non, c'est un petit peu trop large, j'en redonne un petit peu à côté. Bon, ça, c'est des méthodes de bricolage honteuses, pardon de ce jugement de valeur. Il y a mille façons de construire, et par des procédés, notamment ce qu'on appelle, en termes de charpente, le perchage. Procédé par perchage, ce sont des méthodes qui utilisent un tâtonnement, où on prend par exemple tout simplement une grande perche en bois, une grande latte, on la promène à l'endroit où elle est censée représenter l'ouvrage à réaliser, et puis à l'œil, au doigt mouillé, comme on pourrait dire, on évalue, oui, bon, ça arrive à peu près là, je présente, je trace, c'est pas bon, je représente, je retrace, des procédés d'approximation que les Français ont mis, peut-être que les Français ont un ego surdimensionné, ça c'est un autre sujet, mais les Français ont toujours trouvé que c'était en dessous de leur prétention intellectuelle. Ils veulent maîtriser cérébralement l'ouvrage à réaliser. Et pour ça, les procédés de tracé sur papier, sur des épures, a donc été maîtrisé, comme on le voit, pour la géométrie complexe, donc au début de l'ère gothique.
Que voulez-vous dire par ce sens compagnonique? Que les compagnons du Tour de France ont contribué largement à la diffusion, au développement du trait, que c'est même propre à eux?
Les compagnons du Tour de France, qui appartiennent à plusieurs, aujourd'hui à, encore à plusieurs sociétés extrêmement valorisées, ont été véritablement les commis voyageurs, au sens le plus noble du terme, de l'art du trait de charpente, de la même manière qu'ils l'ont pratiqué également en stéréotomie, dans l'art de tailler les pierres, pour principalement motivés par les immenses campagnes de construction d'édifices religieux, mais pas que, donc à l'époque gothique. Et encore aujourd'hui, l'art du trait est encore un des fleurons de la corporation des charpentiers sur le Tour. Les compagnons sont de formidables maîtres de trait, mais pas que, ils pratiquent évidemment toutes sortes de disciplines, mais l'art du trait est pour eux vraiment une sorte de bannière. C'est aussi une discipline donc à la fois intellectuelle et pratique. Ce qui est très fort à souligner, c'est que l'art du trait ne doit rien aux ingénieurs. Et lorsque Gaspard Monge invente la géométrie descriptive à la fin du XVIIIe siècle, il reprend en grande partie des éléments de savoir qui ont été élaborés bien avant lui par des ouvriers dont la plupart étaient illettrés. C'est un art pratique, un art théorique et pratique, mais maîtrisé par des gens de chantier. Et les ingénieurs ont ensuite théorisé et bien entendu rationalisé, amélioré, fait évoluer la pratique de la géométrie descriptive, mais ce ne sont pas les ingénieurs qui ont inventé ces méthodes.
Mais dans des petits films qu'on peut voir encore sur Internet, notamment que vous avez réalisé, François Calame, comme projet de réalisation au moment où vous candidatiez pour l'UNESCO, on entend que c'est aussi, cet art français du trait de charpente, une discipline intellectuelle, morale, qui est signe d'une maîtrise de soi, qui est porteuse de valeurs humaines et techniques fortes. Et on entend même à un moment, dans un des petits films que vous avez réalisé, un jeune qui vient de quartiers difficiles et qui dit voilà, pour moi c'est important parce que c'est je suis quelqu'un de caractère et c'est pas un trait qui va m'arrêter et qui arrive à maîtriser ce trait comme si c'était quelque chose qui le rendait fier. Voilà.
Il y a un code de valeur morale, c'est un défi qu'on se lance à soi-même, qui est un travail principalement personnel. On est seul face à soi-même et face à cet exercice qu'on s'est soi-même imposé, mais on le fait aussi au regard et au vu de toute une corporation ou d'un groupe social auquel on appartient. Ce groupe, c'est soit le groupe des compagnons ou des aspirants sur le Tour de France qui progressent chacun à leur rythme, mais ensemble dans des séances de cours pratiques où on exerce le trait de charpente. Mais on le fait aussi vis-à-vis de camarades qui n'ont rien à voir avec le compagnonnage. Et c'est ça qui est extraordinaire et qui a été un élément important qui nous a permis d'emporter la décision de l'UNESCO, c'est que le trait n'est pas que l'apanage d'un groupe refermé sur lui-même, que serait ou ne serait pas le compagnonnage. C'est pas l'attribut d'une société secrète qui développe ça pour elle-même, mais c'est aussi une discipline qui est pratiquée par des gens de métier aux origines sociales extrêmement variés, et y compris, j'ai pu le constater par l'exemple que vous citiez à l'instant, et je voudrais nommer ce jeune Rémi Masset que j'ai connu en 2008, qui était un extraordinaire garçon de 18-19 ans, qui était issu de cités extrêmement difficiles dans la banlieue parisienne, et qui m'a raconté en termes concis, parce que c'était pas quelqu'un qui se répandait dans des confidences, mais qui me racontait qu'il avait démarré la vie dans des conditions très difficiles sur le plan social, et qu'il avait lui-même réchappé de situations très périlleuses où il s'était mis, où la société l'avait mis, par la passion, l'addiction qui lui était arrivée, survenue, de ses pratiques de maîtrise du trait. Et c'est extraordinaire de voir comment, avec ce regard déterminé, ce jeune garçon avec des expressions quasi enfantines, mais en même temps une détermination dans le regard, expliquer comment ces exercices de plus en plus complexes de tracés de traits de charpente formidablement compliqué, des exercices que moi-même, bien entendu, je ne maîtrise pas, que je ne maîtriserai jamais. Mais lui, voyez ça comme un défi qu'il fallait qu'il relève. Et il disait, je pratique ça parce que c'est le code des valeurs que j'ai appris de là où d'où je viens, dans les cités. Et ça, c'est quelque chose de très fort, parce qu'on voit que cette discipline du trait est quelque chose de fédérateur, de constructif, mais qu'il réunit des milieux sociaux éventuellement très, très différents.
Merci François Calame. Il nous reste quand même à voir si ce travail à la main que vous vantez, c'est ce travail des mains calleuses, à un avenir, au moment, dans un monde de plus en plus numérisé, dans un monde mécanisé. Nous verrons ça dans le cinquième et dernier épisode demain. Et on commencera quand même par parler de ce chantier pharaonique qu'a été la restauration de Notre-Dame de Paris. Merci, à demain.
Merci Caroline.
C'était À Voix Nue avec François Calame. Réalisation Guillaume Baldi, chargé de programme à voix nue Daphné Abgral, une série de Caroline Brouet disponible sur le site de France Culture et l'application Radio France.